Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio, parlons vrai, présidentielle 2022.
Il est 9h46, merci d'être avec nous, avec Michel Tribala, toujours avec nous, ancienne chercheuse de l'Institut National d'Études Démographiques, démographe spécialisée dans la question migratoire, et de ce livre surtout sur immigration et idéologie et souci de la vérité aux éditions de l'Artvilleur.
Oui, alors sur un plan démographique, Michel Tribala, c'est un peu tabou, est-ce qu'il y a des changements en cours en profondeur dans notre société ou pas? Est-ce que vraiment la typologie de la population dans certains quartiers a bougé et bouge encore beaucoup?
Oui, ça a bougé. Ce qui a bougé, c'est l'origine des migrants, déjà. Hein, donc, je veux dire, parce que on a eu un dernier quart de siècle, sur le XXe siècle, où la population immigrée a pas beaucoup évolué. Donc, il ne s'est pas passé grand-chose en termes numériques, mais c'est la composition. C'est-à-dire qu'il y a... Il y a beaucoup plus de non-européens ou d'origine non-européenne aujourd'hui qui sont en France et ça se voit dans les quartiers. Et donc, on a des concentrations qui ont augmenté considérablement.
Oui.
Moi, j'ai vu ça sur les moins de 18 ans. Donc, on regarde avec Bernard Aubry comment ça a évolué suivant la taille des communes. Donc, à la fin des années 60, le maximum que vous aviez par taille de commune, au-dessus de 10 000, disons, jusqu'à 100 000 et plus, et 200, Vous aviez 15% de jeunes d'origine étrangère, c'est-à-dire soit nés à l'étranger, soit nés en France, d'au moins un parent immigré. Vous en aviez 15%. Maintenant, au-dessus de 30 000, c'est supérieur à 30%. Vous avez... Donc ça a doublé. Ça a beaucoup augmenté. Et donc, quand vous regardez encore de plus près, quand vous faites des zooms, par exemple sur la Seine-Saint-Denis, c'est encore plus. Vous avez 2/3 de ces jeunes qui sont d'origine étrangère. Et donc, vous imaginez dans certains quartiers où alors c'est...
Oui,
et il y a même certaines villes, parce qu'il y a des villes comme La Courneuve, Aubervilliers, ces villes-là, ça tourne autour
alors
de
ça,
80%.
Oui, c'est vrai, mais c'est un focus Seine-Saint-Denis, qui est un département bien à part. Mais dans le reste de la France, quoi. À Marseille, ça a beaucoup changé aussi, évidemment.
Non, là où ça a beaucoup changé, c'est-à-dire que ces concentrations qui étaient dans certaines régions, comme l'Île-de-France, PACA... Rhône-Alpes, elles sont
mouvantes aujourd'hui.
Non, elles sont encore là, ces concentrations, mais je veux dire, ça s'est étendu sur un grand quart ouest de la France.
Oui.
Donc vous avez, par exemple, une ville comme Blois, où vous avez 47% des jeunes qui sont d'origine étrangère aujourd'hui.
Aujourd'hui, à Blois.
Oui. Disons,
dans un quartier ou sur toute la ville de Blois.
Disons, aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, je devrais préciser, c'est 2017, c'est la dernière date qu'on a.
Certains avancent la théorie, là, vous savez, du grand remplacement, un renouvellement des origines de population dans notre pays. Comment vous voyez, quelle est votre position
grand
par rapport à ça?
Grand remplacement, quand vous dites renouvellement, grand remplacement, ça veut dire qu'il y a une
machination.
Pas forcément.
Une organisation.
Non, pas forcément. Remplacement. Ça veut dire que c'est un peu ce que les gens ont sous les yeux, c'est-à-dire qu'ils voient leur quartier changer. Ou si on est dans les zones rurales, ils voient que la ville où ils vont faire leurs courses, tout ça a changé. Donc ils ont l'impression qu'il y a un changement démographique et qu'ils vont perdre un ascendant, je dirais, culturel et civilisationnel en France. C'est ça que ça veut dire dans l'esprit des gens. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est au bord de basculer vers une majorité de personnes d'origine étrangère.
Pour aller en fait beaucoup plus loin, savoir effectivement quelles sont les origines des populations, etc., dans ces quartiers, et étudier au plus près l'immigration, qui est votre travail quand vous étiez démographe.
Je suis toujours démographe.
Oui, vous êtes toujours démographe.
Ah, non, mais je ne suis plus à l'INED, mais je suis toujours démographe.
Voilà. Vous étiez directrice de recherche à l'INED, hein, c'est ce que je veux dire. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vraiment, officiellement en tout cas, recours aux statistiques ethniques en France, alors qu'on le pratique dans certains pays, notamment aux États-Unis ou en Angleterre?
Là, vous parlez de statistiques ethniques au sens ethno-racial.
Oui.
Bon, faut savoir que on peut avoir des statistiques qui sont de type ethnique, si on veut, en ne retenant pas forcément des déclarations sur l'appartenance ethnique ou raciale, mais en retenant les générations, c'est-à-dire pour voir comment le phénomène migratoire, prend de l'ampleur en France ou aux Pays-Bas ou en Allemagne, etc. L'Allemagne aussi fait ce genre de statistiques. Donc, c'est-à-dire qu'on regarde la génération qui est née en France. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui sont venus en France, qui ont immigré, ils ont eu des enfants. Qu'est-ce qui se passe pour ces enfants-là? Donc, on a une approche en termes de génération. Et ce sont les statistiques de type ethnique qu'on fait en Europe pour la plupart des pays européens. Et la France aussi.
Et la France aussi. Donc on dit qu'on ne le fait pas, mais en fait on le pratique.
Depuis une quinzaine d'années, on le fait. Mais bon, on aime bien répéter que la France n'a pas de statistiques ethniques parce qu'on fait l'assimilation avec les statistiques ethno-raciales.
Oui.
Voilà. Bon, mais les statistiques ethno-raciales, ce n'est pas très facile à manipuler parce que... En fait, il y a des changements d'affiliation.
Oui.
Donc, quand vous regardez les choses dans le temps, vous ne savez pas bien ce que vous regardez.
On peut remonter sur plusieurs générations, c'est ça, en fait, aussi.
Non, puis on peut s'inventer des affiliations raciales.
Oui, mais pourquoi on ne veut pas ? Et est-ce que ça aurait un intérêt d'avoir des statistiques ethniques officielles, en fait, aujourd'hui ?
Je viens de vous expliquer qu'on les a.
Oui, mais qu'on ne les met pas en avant et qu'on n'en parle pas officiellement, en fait, quoi.
Bah si, il y a même sur le site de l'INSEE, il y a un blog INSEE sur lequel on raconte qu'on fait des statistiques depuis très longtemps.
Ouais.
Donc l'INSEE a assumé, mais bon, je veux dire, c'est dans les médias où on n'a pas encore enregistré, donc on n'arrête pas de répéter.
La France ne fait pas
de statistiques ethniques.
Bah oui, bien sûr.
La France faisait des statistiques ethniques, etc.
Pourquoi ?
Non, ce qui nous manque, je dirais... aujourd'hui, c'est d'avoir introduit dans les enquêtes annuelles de recensement les questions qui nous permettraient d'avoir des observations sur la génération née en France.
Mmh.
Il faudrait, dans le recensement, avoir le pays de naissance des parents, nationalité de naissance des parents. Ce que, pour l'instant, l'INSEE et le CNIS, qui est le Conseil national d'information statistique, se refusent à faire.
Oui.
Donc, on a dans des enquêtes, comme l'enquête emploi, on a ces questions-là.
Oui. Et à quoi ça peut servir après, en fait, dans les politiques publiques que l'on mène, d'avoir ces statistiques ? Vous dites, bon, officiellement, donc, voilà, finalement, elles existent, même si on ne le brandit pas, pour mener des politiques publiques dans les quartiers, à l'école, un peu partout ?
Absolument, pour savoir, c'est un élément important de connaissance de la population de la France. Enfin, ça paraît assez évident.
Non, mais adapter en fait des politiques, quoi, bien sûr. Mais sans faire de politique. Hein,
si vous voulez, les politiques ont besoin de connaître la composition démographique du pays qu'ils dirigent. Et donc, ça fait partie des informations utiles.
Mmh.
D'ailleurs, c'est pas par hasard que les enquêtes, les grandes enquêtes de l'INSEE, comme l'enquête emploi, enquête logement, etc., on a ces informations sur les parents.
Mmh.
Mais il y a un passage difficile au recensement. Et le passage au recensement aurait pour avantage de pouvoir, justement, regarder ces effets de concentration.
Mmh.
Parce qu'avec une enquête emploi, vous ne pouvez pas descendre jusqu'au niveau d'Aubervilliers ou de la Courneuve.
Hein. Oui. Michel Tribala, pourquoi est-ce qu'il y a des controverses sur la fécondité en France, entre immigrés et personnes natives, en fait,
non,
de
mais
France.
Il y a des controverses.
On
ne
rentrera pas dans la technique, mais...
Non, mais il y a des controverses parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'un indicateur conjoncturel de fécondité que les démographes appellent bêtement taux de fécondité.
Ouais.
Parce que ça n'en est pas. Hein. Je ne vais pas raconter ce que c'est, parce que ça sera peut-être un petit peu
non,
compliqué.
Oui.
Mais bon, donc, c'est un nombre moyen d'enfants par femme, pour les immigrés, pour les natives, dans l'année.
Ouais.
Voilà.
Ouais. Et là, qu'est-ce qui en ressort ?
Mais si vous voulez, je veux dire, par exemple, en 2017, vous aviez une fécondité, donc un indicateur conjoncturel de fécondité de 1,88 en France, 1,77 sans les femmes immigrées.
Mmh.
Donc le discours est dire, vous vous rendez compte, en fait, ça ne joue pas beaucoup sur l'indicateur fécondité, et 2,6 pour les immigrés.
Ouais. Pourquoi est-ce que...
Je voudrais préciser, si vous voulez, pour les gens, indicateur de fécondité, ça ne leur dit pas grand-chose, et puis taux de fécondité non plus, ils s'imaginent que c'est un pourcentage, et c'est pas un pourcentage, c'est un nombre de moyens d'enfants par femme, donc ils ne comprennent pas.
Ouais.
Mais ce que les gens voient, c'est les enfants qui sont sur les bancs des écoles à côté des leurs.
Mmh.
Donc ils voient bien que ça a changé.
Que ça a changé.
Donc
quoi.
Même si l'effet sur l'indicateur conjoncturel de fécondité est faible, sur le nombre des naissances, c'est pas la même chose.
Ouais. Pourquoi dites-vous aussi, et vous l'évoquez dans votre livre, qu'il y a des tabous et de la désinformation sur les questions d'immigration, Michel Tribala ?
Des tabous, je sais pas si je dis qu'il y a des tabous. Je dis surtout que l'obsession des gens qui veulent redresser l'opinion publique, c'est justement de dire à cette opinion publique, vous avez tout faux, ce que vous pensez n'est pas vrai, moi je vous le montre, et pour le montrer, je suis... Comme je suis obsédée par l'idée de vous montrer que vous vous trompez...
Sur l'immigration, vous vous trompez.
Donc, je ne fais pas ce que je devrais faire en tant que scientifique pour le faire, mais je...
Il y a des scientifiques qui font vraiment ça. Ils l'exploitent.
Il y a des scientifiques qui le font, plus ou moins consciemment, parce qu'ils sont pris par l'idée qu'il faut absolument réformer les perceptions communes qu'ils jugent malodorantes ou moralement pas convenable.
Voilà. Merci Michel Tribala. Tout ça, c'est dans votre livre « Immigration, idéologie et souci de la vérité » aux éditions de L'Artilleur. Tout ça, c'est en détail. Parce que, évidemment, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des choses qui sont parfois assez techniques quand on veut entrer, en fait, quand on est démographe. Mais et après, avec des chiffres factuels. Donc, c'est très intéressant. Merci d'avoir été avec nous. Et demain, on sera, en fait, encore sur des chiffres aussi. On se pose, en fait, une question dans ce débat présidentiel 2022, la vérité en face. Pourquoi aujourd'hui manque-t-on de profs, d'enseignants en France? Pourquoi à ce point-là?
Voilà, vous pouvez bien sûr réagir et déjà nous appeler et prendre rendez-vous pour demain matin. Dans un instant, c'est Valérie Expert qui reçoit les comédiens François Vicencelli et Isabelle Vitari. Et puis nous, on vous retrouve demain matin. Et merci d'avoir été avec nous dans le Grand Matin jusqu'à 10h. Salut, à demain.